Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Retour dans nos lectures en liberté au roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Monsieur Hindley entra en proférant des jurons effrayants et me surprit au moment que je cachais son fils dans le buffet de la cuisine. Que Ayrton eût à subir la tendresse de bête fauve de son père ou sa rage de fou furieux, il en éprouvait toujours une terreur salutaire. Car dans un cas, il courait le risque d'être étouffé sous ses embrassements, dans l'autre, celui d'être jeté dans le feu ou lancé contre le mur. Aussi le pauvre petit restait-il parfaitement coi partout où il me venait à l'idée de le mettre. « Enfin ! Je l'ai trouvé !» s'écria Hindley en me tirant en arrière par la peau du cou comme un chien, par le ciel et par l'enfer. « Vous avez juré entre vous de tuer cet enfant !»« Je comprends maintenant pourquoi je ne le rencontre jamais. » Mais avec l'aide de Satan, je vous ferai avaler le couteau à découper, Nelly. Il n'y a pas de quoi rire. Je viens de jeter Kenneth, la tête la première, dans le marais du cheval noir. Il n'est pas plus difficile d'en expédier deux qu'un, et j'ai besoin de tuer quelqu'un de vous. Je n'aurai pas de repos tant que ce ne sera pas fait. Mais je n'aime pas le couteau à découper, monsieur Hindley, répondis-je. Il a servi à préparer les harengs sourds. Je préférerais être fusillé. « Si cela vous est égal. »« Vous préféreriez être damé, vous le serez. Il n'y a pas de loi en Angleterre qui empêche un homme de tenir sa maison convenablement et la mienne est abominable. Ouvrez la bouche !» Il tenait le couteau dans les mains et en poussa la pointe entre mes dents. Mais pour ma part, je n'étais jamais bien effrayé de ces divagations. Je crachais, affirmant que le couteau avait un goût détestable et que je ne le prendrais sous aucun prétexte. « Oh, dit-il en me lâchant, je vois que ce hideux petit gredin n'est pas Ayrton. Je vous demande pardon, Nelly. Si c'était lui, il mériterait d'être écorché vif pour ne pas être accouru me dire bonjour et pour hurler comme si j'étais un fantôme. Petit animal dénaturé, viens ici. Je t'apprendrai à abuser un père au cœur trop tendre. Dites donc, ne croyez-vous pas que ce gamin serait mieux avec les oreilles coupées ?» Cela rend les chiens plus féroces et j'aime la férocité. Donnez-moi des ciseaux. La férocité et l'élégance. Et puis, c'est une affectation infernale, une vanité diabolique de tenir à nos oreilles. Nous sommes assez ânes sans elles. Chut, 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 enfant, chut. Bon, mon petit chéri. Allons, essuie tes yeux. Tu es un bijou. Embrasse-moi. Quoi ? Il ne veut pas ? Embrasse-moi, Ayrton. « Le diable t'emporte, embrasse-moi. Par Dieu, comme si j'allais élever un pareil monstre, aussi sûr que je vis, je vais tordre le cou à ce marmot. » Le pauvre Ayrton poussa des cris et se débattait de toutes ses forces dans les bras de son père. Il redoubla ses hurlements quand Hindley l'emporta en haut de l'escalier et le tint suspendu par-dessus la balustrade. Je lui criai que la peur allait donner des convulsions à l'enfant et me précipitai pour porter secours à celui-ci. Comme j'arrivais près d'eux, Hindley se penchait sur la rampe pour écouter un bruit en bas. Il oubliait presque ce qu'il avait dans les bras. « Qui est là ? » demanda-t-il, en entendant quelqu'un approcher du pied de l'escalier. Je me penchai aussi dans l'intention de faire signe à Heathcliff, dont j'avais reconnu le pas de ne pas avancer. Au moment que je quittais Ayrton de l'œil, l'enfant fit un effort brusque, se dégagea des mains négligentes qui le retenaient et tomba. À peine avions-nous eu le temps de tressaillir d'horreur que déjà nous voyions que le petit malheureux était sain et sauf. Heathcliff était arrivé en bas juste à l'instant critique. D'un mouvement instinctif, il l'arrêta au vol et, le mettant sur ses pieds, regarda en l'air pour découvrir l'auteur de l'accident. Un avare qui s'est débarrassé pour 5 shillings d'un bon billet de loterie et qui découvre le lendemain qu'il a perdu au marché 5 000 livres n'aurait pas l'air plus déconcerté que Heathcliff quand il aperçut en haut la silhouette de M. Earnshaw. Son visage refléta plus clairement que n'eussent pu l'exprimer des paroles l'intense angoisse de s'être fait lui-même l'instrument de l'opposition à sa vengeance. S'il eût fait nuit, je crois qu'il aurait essayé de réparer son erreur en écrasant le crâne de Harton sur les marches. Mais nous avions été témoins du sauvetage, et j'étais déjà en bas, pressant sur mon cœur l'enfant dont j'avais la charge précieuse. Hindley descendit plus posément, dégrisé et confus. « C'est votre faute, Hélène, dit-il. Vous auriez dû le tenir hors de ma vue. Vous auriez dû me le retirer. Est-il blessé ?»« Blessé ? » m'écriai-je avec colère. « S'il n'est pas tué, il en restera idiot. » Oh, je m'étonne que sa mère ne sorte pas de sa tombe pour voir ce que vous faites de lui. Vous êtes pire qu'un païen. Traitez de cette façon votre chair et votre sang. » Il essaya de toucher l'enfant qui, en se sentant avec moi, avait aussitôt cessé ses sanglots de terreur. Mais au premier doigt que son père posa sur lui, il recommença de crier de plus belle et se débattit comme s'il allait entrer en convulsion.
« Ne le touchez pas, repris-je, il vous hait. Tout le monde vous hait. Voilà la vérité. Une heureuse famille que vous avez là, et un bel état que celui auquel vous êtes arrivé.
Ah, « J'arriverai à mieux encore, Nelly, ricana cet homme égaré, recouvrant toute sa dureté. À présent, allez-vous-en et emportez-le. Et toi, Heathcliff, écoute-moi. » Mets-toi bien hors de portée de moi et que je ne t'entende pas. Je ne voudrais pas te tuer cette nuit, à moins peut-être que je ne mette le feu à la maison, mais cela dépendra de ma fantaisie. »
Sur ce, il prit une bouteille de brandy dans le buffet et s'en versa un grand verre.
« Non, ne buvez pas, suppliai-je. Monsieur Hindley, prenez garde, ayez pitié de ce malheureux enfant si vous ne vous souciez pas de vous-même. »
« N'importe qui vaudra mieux pour lui que moi-même, » répondit-il.
« Ayez pitié de votre âme, » dis-je en essayant de lui arracher le verre de la main.
« Moi, au contraire, j'aurai grand plaisir à l'envoyer à la perdition pour punir son créateur, » s'écria le blasphémateur. « Voilà pour sa cordiale damnation !» Il avala la liqueur et nous ordonna avec impatience de disparaître, en achevant sa sommation par une suite d'horribles imprécations trop affreuses pour que je les répète ou même que je m'en souvienne.
« C'est dommage qu'il ne puisse se tuer à force de boire, » observa Heathcliff, en lui envoyant ses malédictions dans un murmure quand la porte fut fermée. « Il fait tout ce qu'il peut, mais sa constitution est la plus forte. » Monsieur Kenneth offre de parier sa jument qu'il survivra à tous ceux qui habitent de ce côté-ci de Gimmerton et qu'il ne descendra dans la tombe que pêcheur blanchi par l'âge, à moins de quelque heureux hasard en dehors du cours naturel des choses. »
J'entrai dans la cuisine et m'assis pour endormir doucement mon petit agneau. Heathcliff, croyais-je, était allé dans la grange. Tu compris plus tard qu'il avait simplement passé derrière le banc à haut dossier. Il s'était jeté sur une banquette le long du mur, loin du feu, et y demeurait silencieux. Je berçai Harton sur mes genoux, en fredonnant une chanson. Quand Miss Katie, qui de sa chambre avait écouté l'altercation, passa la tête et murmura «
Êtes-vous seule, Nelly ?»«
Oui, Miss, » répondis-je.
Elle entra et s'approcha du foyer. Je la regardai, supposant qu'elle allait dire quelque chose. Sa physionomie semblait troublée et inquiète. Ses lèvres étaient entrouvertes comme si elle voulait parler. Mais au lieu d'une phrase, ce fut un soupir qui s'en échappa. Je repris ma chanson. Je n'avais pas oublié ses récents faits et gestes.
« Où est Heathcliff ? » demanda-t-elle en m'interrompant.
à son travail, à l'écurie. Il ne me contredit pas. Peut-être somnolait-il. Un autre long silence se suivit, pendant lequel j'aperçus une larme ou deux couler de la joue de Catherine sur les dalles. « Regrette-t-elle sa honteuse conduite ?» me demandai-je. « Ce serait une nouveauté. Mais elle arrivera au fait comme elle voudra. Ce n'est pas moi qui l'aiderai. » Non, elle s'inquiétait peu de tout ce qui ne la concernait pas personnellement. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle enfin, « je suis bien malheureuse. »« C'est grand dommage, » observai-je. Vous êtes difficile à contenter, tant d'amis, si peu de soucis, et vous n'arrivez pas à être satisfaite. Nelly, voulez-vous me garder un secret ? Poursuivit-elle en s'agenouillant près de moi. Et levant vers les miens ses yeux câlins, avec un de ces regards qui chassent l'humeur, même quand on a toutes les raisons du monde d'en avoir. Vaut-il la peine qu'on le garde ? Demandai-je avec moins de maussaderie. « Oui, puis il me tourmente. Il faut que je m'en soulage. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Aujourd'hui, Edgar Linton m'a demandé si je voulais l'épouser, et je lui ai donné une réponse. Eh bien, avant que je vous dise si c'était un consentement ou un refus, dites-moi ce que cela aurait dû être. » « Vraiment, Miss Catherine, comment puis-je le savoir ?»« Certes, après le spectacle que vous lui avez offert cet après-midi, je pourrais affirmer qu'il eût été sage de refuser. Puisqu'il vous a demandé néanmoins, il faut qu'il soit ou d'une stupidité incurable ou d'une témérité folle. »« Si vous parlez ainsi, je ne vous dirai plus rien, » répliqua-t-elle, d'un air piqué en se relevant. « J'ai accepté, Nelly. Vite, dites-moi si j'ai eu tort. » Vous avez accepté. Alors à quoi bon discuter ? Vous avez engagé votre parole et vous ne pouvez vous rétracter. Mais dites-moi si j'ai bien fait. Dites ! S'écria-t-elle avec irritation, se frottant les mains et fronçant les sourcils. Il y a plusieurs choses à considérer avant de pouvoir répondre convenablement à cette question, dis-je sentencieusement. D'abord et avant tout, aimez-vous, monsieur Edgar ?
Qui ne l'aimerait ? Naturellement, je l'aime.
Alors je lui fis subir le questionnaire suivant. Pour une fille de 22 ans, ce n'était pas trop déraisonnable. Pourquoi l'aimez-vous, Miss Cathy ?
Quelle question, je l'aime, cela suffit.
Pas du tout, il faut dire pourquoi.
Eh bien, parce qu'il est bien de sa personne et que sa société est agréable.
« Mauvais, » fut mon commentaire,
« et parce qu'il est jeune et gai, mauvais encore, et parce qu'il m'aime, sans intérêt, après vos précédentes raisons, et qu'il sera riche et que ce serai, je reprends, et qu'il sera riche et que je serai contente d'être la plus grande dame du pays et que je serai fière d'avoir un tel mari, pire que tout. Et maintenant, dites-moi comment vous, vous l'aimez. »
There are places I don't remember. There are times and days they mean nothing to me. I've been looking through some of them old pictures. They don't say jog my memory.
I'm not waking in the morning, staring at the walls these days. I'm not getting out the boxes spread out all over the floor. I've been looking through some of them old pictures. These faces, they mean nothing to me no more.
You travel life.
You travel. say you can justify your travel life.
I can't pick them out, I can't put them in this saddlebag.
Some things you have to lose along the way.
Times are hard, I'll only pick them out, wish I was going back.
When times are good, you'll be glad you ran away.
You travel light.
You travel light.
Everything I've done.
You say you can justify your travel. Thick old head.
Well, it comes with the hurt and the guilt and the memory. If I had to take them with me, I'd never get from my bed.
There's a crack in the road where the rain falls through. That's the place you always decide to sit.
Yeah, I know I'm there for hours, the water running down my face.
Do you really think you keep it all that well hid?
No, but I travel light.
You don't travel light.
Everything I've done,
it's just a lie. You don't travel light.
I'm traveling light.
No, you don't travel light.
I travel light.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Léo de Hurlevent, Émilie Brontë.
Comment je l'aime, répondit Cathy, mais comme tout le monde aime. Vous êtes sotte, Nelly.
Pas du tout, répondez.
J'aime le sol qu'il foule, l'air qu'il respire, et tout ce qu'il touche, et tout ce qu'il dit. J'aime tous ses regards et tous ses gestes. Je l'aime entièrement et complètement. Voilà.
Et pourquoi ?
Ah non, vous plaisantez, c'est extrêmement méchant. Ce n'est pas une plaisanterie pour moi, dit la jeune fille, qui se renfrogna et se tourna vers le feu.
Je suis bien loin de plaisanter, Miss Catherine, répliquai-je. Vous aimez M. Edgar parce qu'il est bien de sa personne, qu'il est jeune, gai, riche et qu'il vous aime.
Cette dernière raison, d'ailleurs, ne vaut rien. Vous l'aimeriez probablement sans cela. Et même avec cela, vous ne l'aimeriez pas s'il n'avait les quatre premiers attraits.
Non, certainement pas. J'aurais simplement pitié de lui. Je le détesterais peut-être s'il était laid et rustre.
Mais il y a beaucoup d'autres jeunes gens bien tournés et riches de par le monde. Mieux tournés, peut-être, et plus riches que lui.
Qu'est-ce qui vous empêcherait de les aimer ?
S'il y en a, ils ne sont pas sur mon chemin. Je n'ai pas rencontré de pareil d'Edgar.
Il peut se faire que vous le rencontriez. Et puis, il ne sera pas toujours beau et jeune, et il peut n'être pas toujours riche.
Il l'est pour le moment et je n'ai à m'occuper que du présent. Je voudrais bien vous entendre parler avec un peu de bon sens. »
Bon, voilà qui tranche la question.
Si vous n'avez à vous occuper que du présent, épousez M. Linton.
Je n'ai pas besoin de votre permission pour cela, je l'épouserai. Mais en fin de compte, vous ne m'avez pas dit si j'avais raison.
Parfaitement raison, si l'on a raison de se marier seulement pour le présent.
Et maintenant, voyons pourquoi vous êtes malheureuse. Votre frère sera content.
Les vieux parents ne feront pas d'objection, je pense. Vous quitterez une maison sans ordre et sans confort pour une maison opulente et respectable. Vous aimez Edgar et Edgar vous aime. Tout m'a l'air simple et facile. Où est l'obstacle ?
Ici et ici,
répondit Catherine en se frappant d'une main le front et de l'autre la poitrine. Partout où vit l'âme, en mon âme et conscience, je suis convaincue que j'ai tort.
Voilà qui est étrange, je ne comprends pas.
C'est mon secret.
Mais si vous voulez bien ne pas vous moquer de moi, je vais vous l'expliquer. Je ne puis le faire nettement, mais je vous donnerai une idée de ce que j'éprouve.
Elle se rassit près de moi. Sa figure devint plus triste et plus grave. Ses mains jointes tremblaient.
Nelly, ne faites-vous jamais de rêves singuliers ?
Dit-elle tout à coup, après quelques minutes de réflexion.
Si, de temps à autre.
Et moi aussi.
J'ai fait dans ma vie des rêves dont le souvenir ne m'a plus jamais quitté et qui ont changé mes idées. Ils se sont infiltrés en moi comme le vin dans l'eau et ont altéré la couleur de mon esprit.
En voici un. Je vais vous le raconter, mais ayez soin de ne sourire à aucun de ces détails.
Oh, ne dites rien, Miss Catherine, m'écriai-je. Notre vie est déjà assez lugubre sans que nous allions évoquer des fantômes et des visions pour nous troubler. Allons, allons, soyez gais, soyez vous-même. Regardez le petit Harton. Il ne rêve à rien de sinistre, lui, comme il sourit gentiment dans son sommeil.
Oui. Et comme son père jure gentiment dans sa solitude.
Vous vous souvenez de lui, certainement. Quand il était tout pareil à ce petit être joufflu, presque aussi jeune et aussi innocent. Mais Nelly, je vous obligerai d'écouter. Ce n'est pas long et je suis incapable d'être gai ce soir.
Je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre, répétai-je vivement.
J'étais superstitieuse au rêve en ce temps-là et je le suis encore. Puis Catherine avait un air qui ne lui était pas habituel et qui me faisait craindre quelque chose où je verrais une prophétie, où je trouverais l'annonce d'une terrible catastrophe. Elle fut vexée, mais ne continua pas. Elle eut l'air d'aborder un autre sujet, puis bientôt après recommença.
« Si j'étais au ciel, Nelly, je serais bien misérable. »
« Parce que vous n'êtes pas digne d'y aller, répondis-je, tous les pécheurs seraient misérables au ciel. »«
Mais ce n'est pas pour cela, j'ai rêvé une fois que j'y étais. »«
Je vous ai dit que je ne voulais pas écouter vos rêves, Miss Catherine. Je vais aller me coucher, protestai-je en l'interrompant de nouveau. »
Elle se mit à rire et me força de rester assise car j'avais fait un mouvement pour quitter ma chaise.
« Celui-ci est moins que rien, s'écria-t-elle, et j'allais seulement dire que le ciel ne m'avait pas paru être ma vraie demeure. Je me brisais le cœur à pleurer pour retourner sur la terre, et les anges étaient si fâchés qu'ils me précipitèrent au milieu de la lande, sur le sommet des hauts de Hurlevent, où je m'éveillais en sanglotant de joie. »
Voilà qui vous expliquera mon secret, aussi bien qu'aurait fait mon autre rêve. Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que d'être au ciel. Et si l'individu pervers qui est ici n'avait pas ainsi dégradé Heathcliff, je n'y aurais jamais songé. Ce serait me dégrader moi-même maintenant que d'épouser Heathcliff. Aussi ne saura-t-il jamais comment je l'aime. Et cela non pas parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la mienne et la sienne sont pareilles, et celle de Linton est aussi différente des nôtres qu'un rayon de lune d'un éclair ou que la gelée du feu.
Avant qu'elle eût terminé ce discours, je m'étais convaincu de la présence de Heathcliff. Ayant remarqué un léger mouvement, je tournai la tête et le vis se lever de la banquette, puis se glisser dehors sans bruit. Il avait écouté jusqu'au moment où il avait entendu Catherine dire qu'elle se dégraderait en l'épousant et n'était pas resté pour en entendre davantage. Le dossier du grand banc empêcha ma compagne assise par terre de remarquer sa présence et son départ, mais je tressaillis et je lui fis « Chut !»« Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en regardant nerveusement autour d'elle. « Joseph est là, » répondis-je. J'avais saisi à point nommé le roulement de sa charrette sur la route. Heathcliff va rentrer avec lui. Je me demande s'il ne serait pas à la porte en ce moment. « Oh, il n'aurait pas pu m'entendre de la porte. Donnez-moi Harton, tandis que vous préparerez le repas, et quand ce sera prêt, invitez-moi à souper avec vous. J'ai besoin de tromper ma conscience troublée et de me persuader que Heathcliff n'a aucune idée de tout cela. Il n'en a aucune, n'est-ce pas? Il ne sait pas ce que c'est qu'être amoureux. » Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le sache pas aussi bien que vous. Et si c'est vous qui l'a choisi, il sera l'être le plus infortuné qui soit jamais venu au monde. Du jour que vous deviendrez Madame Linton, il perdra amitié, amour, tout. Avez-vous songé à la manière dont vous supporterez la séparation ? Et dont lui supportera d'être tout à fait abandonné sur cette terre, parce que, Miss Catherine, lui, tout à fait abandonné, nous séparer ? S'écria-t-elle avec indignation. Qui nous séparerait, je vous prie ? Celui-là aurait le sort de 1000 tonnes de croton, aussi longtemps que je vivrai, Hélène. Aucun mortel n'y parviendra. Tous les Linton de la terre pourraient être anéantis avant que je consente à abandonner Heathcliff. « Oh, ce n'est pas ce que j'entends, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne voudrais pas devenir Madame Linton à ce prix. Il sera pour moi tout ce qu'il a toujours été. Edgar devra se défaire de son antipathie et le tolérer tout au moins. Il le fera quand il connaîtra mes vrais sentiments pour Heathcliff. Nelly, je le vois maintenant, vous me considérez comme une misérable égoïste. Mais n'avez-vous jamais eu la pensée que si Heathcliff et moi nous marions, nous serions des mendiants. Tandis que si j'épouse Linton, je puis aider Heathcliff à se relever et le soustraire au pouvoir de mon frère. Avec l'argent de votre mari, Miss Catherine, vous ne le trouverez pas aussi souple que vous y comptez. Bien que ce ne soit guère à moi d'en juger. Il me semble que c'est le plus mauvais motif que vous ayez encore allégué pour devenir la femme du jeune Linton. « Pas du tout, c'est le meilleur. » Les autres n'intéressaient que la satisfaction de mes caprices et aussi celle d'Edgar. Mais celui-ci intéresse quelqu'un qui réunit en sa personne tout ce que je ressens pour Edgar et pour moi-même. C'est une chose que je ne puis exprimer. Mais sûrement vous avez, comme tout le monde, une vague idée qu'il doit y avoir en dehors de vous une existence qui est encore vôtre. À quoi servirait que j'eusse été créé si j'étais tout entière contenu dans ce que vous voyez ici? Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerais d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente, mais nécessité. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours, toujours dans mon esprit, non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi, ne parlez plus de notre séparation, elle est impossible et... Elle s'arrêta et se cacha le visage dans les plis de ma robe. mais je la repoussai violemment. Sa folie avait mis ma patience à bout.
Si je puis tirer un sens de tous vos non-sens, miss, dis-je, ils ne font que me convaincre que vous ignorez les devoirs qu'on assume en se mariant, ou bien que vous êtes une fille pervertie et sans principe. Mais ne m'importunez plus avec d'autres secrets. Je ne promets pas de les garder.
Vous garderez celui-là ? Demanda-t-elle vivement.
Non, je ne promets rien, répétai-je.
Elle allait insister quand l'entrée de Joseph mit fin à notre conversation. Catherine transporta son siège dans un coin et dorlota Harton pendant que je préparais le souper. Quand il fut prêt, Joseph et moi commençâmes à se disputer pour savoir qui se chargerait de porter à manger à M. Hindley. La question fut tranchée quand tout fut presque froid. À ce moment, nous convînmes de le laisser venir demander lui-même s'il désirait quelque chose, car nous craignions particulièrement de paraître devant lui quand il était resté quelque temps seul.
« Et comment que c'est propre à rien, il n'est pas encore venu des champs à cette heure-ci ? Qu'est-ce qu'il fait ce grand feignant ?»
demanda le vieillard en cherchant des yeux Heathcliff.
« Je vais l'appeler, dis-je. Il est dans la grange, j'en suis sûr. »
Je sortis et j'appelai, mais n'obtins pas de réponse. En revenant, je chuchotai à l'oreille de Catherine qu'il avait certainement entendu une bonne partie de ce qu'elle avait dit, et je lui racontai comment je l'avais vue quitter la cuisine, juste au moment qu'elle se plaignait de la conduite de son frère envers lui. Elle sauta debout tout alarmée, jeta Harton sur le banc et courut chercher elle-même son amie sans prendre le temps de se demander pourquoi elle était si bouleversée, ni en quoi ses paroles pouvaient avoir affecté Heathcliff.
Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.